de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. Tokyo Disney Resort rouvrira le 1er juillet. La réouverture des activités touristiques en Arabie Saoudite. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative rappelle le protocole de santé avant d'ouvrir la destination. Un membre de la force de maintien de la paix indonésienne a été tué au Congo. L'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande construisent la solidarité pour préparer une nouvelle normalité. Le gouvernement anticipe l'explosion potentielle des incendies de forêt et de la terre en août et septembre. Et consultation pour l'après-crise de la COVID-19, Sarkozy et Hollande reçus à l'Élysée. Mon cher auditeur, voici les nouvelles en complet. Tokyo Disney Resort rouvrira le 1er juillet. Oriental Land, la société de gestion de Tokyo Disney Resort, a déclaré mardi que le parc rouvrirait le 1er juillet, mais en limitant le nombre de visiteurs pour empêcher le coronavirus. Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea sont fermés depuis fin février en raison de l'augmentation des cas de coronavirus à Tokyo. Outre Tokyo, les cas du virus qui cause COVID-19 apparaissent également dans les préfectures environnantes. Comme cité par Reuters ces dernières semaines, l'économie a rouvert progressivement. Les visiteurs doivent d'abord commander un billet. À leur arrivée à la porte d'entrée, leur température corporelle sera vérifiée et ils devront porter un masque. Les sièges de performance seront également disposés de telle sorte que le public garde ses distances. La réouverture des activités touristiques en Arabie Saoudite. Le gouvernement de l'Arabie Saoudite a rouvert ses activités touristiques. Les résidents locaux ont bien salué, rapporté par Arab News mardi 23 juin 2020, le ministre saoudien du tourisme Ahmed Al-Khatib a déclaré qu'il avait lancé un programme de tourisme national en été. Ahmed a déclaré que le gouvernement arabe était prêt à lancer un programme d'été et avait mené des recherches et entendu que 80% des résidents souhaitaient le tourisme intérieur en été plutôt que le tourisme international. L'autorité publiera également ce programme au public après son approbation par le ministère de la Santé et la Commission supérieure. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative rappelle les protocoles de santé avant d'ouvrir la destination. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative entend également le chef de l'Agence du Tourisme et de l'Économie créative, Usnutama Kusubandio, a souligné l'importance de mettre en œuvre des protocoles de santé stricts avant de planifier la réouverture des destinations touristiques en période de la nouvelle normalité. Usnutama, dans sa déclaration reçue à Jakarta mardi, a déclaré que de nombreux hommes d'affaires du secteur du tourisme attendaient la publication des politiques de protocoles sanitaires dans le secteur du tourisme et de l'économie créative, parce que depuis 3 derniers mois, ils avaient été contraints d'arrêter leurs activités en raison de la pandémie de COVID-19. Il s'est notamment déclaré que le gouvernement prévoit actuellement d'ouvrir le tourisme naturel qui présente un faible risque de transmission. Il a rappelé que le plan d'ouverture du tourisme de nature doit être suivi de la mise en place de protocoles sanitaires stricts. On espère que le protocole de santé deviendra une référence pour toutes les parties dans la planification de l'ouverture du tourisme, y compris le tourisme de nature. Un membre de la force de maintien de la paix indonésienne a été tué au Congo. Un membre de la force indonésienne de maintien de la paix en poste à la mission de la MONUSCO en République démocratique du Congo serait mort. Le décès du sergent-major Rama Wahyudi a été confirmé mardi par la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi via son compte Twitter. La ministre des Affaires étrangères Retno a déclaré la plus haute appréciation à feu Rama Wahyudi pour son service dans le maintien de la paix mondiale, citant un rapport de la FP d'une source onusienne. Un membre des forces de maintien de la paix d'Indonésie a été tué et une autre personne a été blessée dans une attaque de milices lundi soir 22 juin dans l'est de la République démocratique du Congo. Leur patrouille a été attaquée à environ 20 km de la ville de Beni, dans la province du nord de Kivu. La ministre des Affaires étrangères Retno a déclaré que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait fermement condamné l'attaque contre la MONUSCO et demandé aux autorités congolaises d'enquêter et de traduire les auteurs en justice. Dans un communiqué, le chef de la MONUSCO, Leila Zerougui, a condamné l'attaque qui, selon elle, a été menée par des membres présumés des ADF, c'est les Forces démocratiques alliées, un groupe armé bien connu dans l'est du pays. L'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande construisent la solidarité pour préparer une nouvelle normalité. L'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande construisent la solidarité de la collaboration pour préparer une nouvelle normalité dans la région du triangle de croissance Indonésie-Malaisie-Thaïlande. Le directeur général d'Asie-Pacifique et d'Afrique du ministère des Affaires étrangères, Desra Percaya, dans une déclaration écrite reçue lundi, a déclaré qu'aucun pays au monde n'était assez fort pour affronter la COVID-19. La coopération internationale et régionale devait de plus en plus pertinente dans ces conditions. La déclaration a été prononcée à l'ouverture de la conférence virtuelle l'Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Triangle de croissance IMTGT, Réseau universitaire, Uninet 9, IMTGT Uninet sur le thème renforcer la coopération IMTGT sur la pandémie de COVID-19. Le 22 juin 2020, les trois pays membres ont des territoires directement frontaliers. Il est donc important de renforcer la coopération dans la région de la pandémie de COVID-19. En outre, la coopération des IMTGT a beaucoup contribué au développement de l'économie sous-régionale, notamment une connectivité accrue, la valeur du commerce, du tourisme et des investissements. Le gouvernement anticipe l'explosion potentielle des incendies de forêt et de terre en août et septembre. La ministre des Environnements et des Forêts, Siti Nourbaya Bakar, a déclaré que le gouvernement avait anticipé l'explosion potentielle des incendies de forêt et de terre qui se produisent normalement entre août et septembre. Siti Nourbaya, après une réunion limitée avec le président du palais présidentiel de Jakarta, a déclaré mardi que son parti avait étudié à la fois le comportement climatique et le comportement des points chauds, ainsi que le moment de l'explosion des incendies de forêt qui se produisent habituellement en août. Siti Nourbaya a déclaré que sur la base de la surveillance dans le nord de Sumatra, Riau et Aceh, et dans certaines parties du nord de Sumatra, il y avait deux phases de crise. La première phase a lieu en mars-avril, tandis que la deuxième phase est juin-juillet, et ainsi de suite jusqu'à ce que le pic soit août-septembre. Selon la ministre, ce qui peut être fait avec cette condition est de faire de l'ingénierie de la pluie par la technologie de modification des conditions météorologiques sur l'analyse de l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique et réalisée par l'Agence pour l'évaluation et l'application de la technologie et soutenue par des avions de la force aérienne indonésienne. Consultation pour la pré-crise de la COVID-19, Sarkozy et Hollande reçus à l'Élysée. Dans le cadre des discussions censées l'aider à dessiner la fin de son quinquennat, le chef de l'État rencontre actuellement Nicolas Sarkozy. François Hollande se rendra à l'Élysée vendredi. Il consulte tous azimuts pour dessiner la fin de son mandat. Toute cette semaine à l'orée du second tour des élections municipales, Emmanuel Macron multiplie les rencontres politiques à l'Élysée. Ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, sont du nombre. S'agissant de l'ancien patron des Républicains, il s'entretient ce lundi après-midi avec le chef de l'État. Quant à François Hollande, dont les relations avec son successeur sont notoirement fraîches, il est censé venir à l'Élysée vendredi. C'est ce qu'a rapporté BFM TV dans son site internet mardi le 24 juin 2020. Selon l'information reçue par BFM TV, l'ex-président socialiste viendra pour un entretien à partir de 13h15. Pas nécessairement pour le déjeuner. Entre-temps, Emmanuel Macron doit rencontrer les présidents des groupes parlementaires du Sénat mardi, puis ceux de l'Assemblée nationale jeudi. Ces rencontres se feront en présence respectivement du président de la Chambre haute, Gérard Larcher, et jeudi de Richard Ferrand. Bon, chers auditeurs, c'est tout le nouvel d'aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Les efforts pour achever la guerre civile en Libye par la paix ». Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye a continué de s'enflammer. Le conflit armé entre le gouvernement et les partis adverses se poursuit. Dernièrement, le conflit se réchauffe. L'ingérence étrangère dans le conflit en cours a incité les Nations Unies à prendre position. L'escalade du conflit en Libye est de plus en plus encouragée par les avantages et les inconvénients de la résolution de guerre civile par des parties étrangères. Après que l'Égypte a déclaré qu'elle soutiendrait les rebelles, la Turquie a dit qu'elle aidait immédiatement le gouvernement sous forme de militaires et d'armes. Le gouvernement turc soutient fermement le gouvernement et est déterminé à envoyer une assistance militaire pour combattre les rebelles. La décision égyptienne déclarée par le président Erdogan a enflammé les opinions des autres pays qui soutenaient le général Khalifa Haftar qui s'opposait au gouvernement. Pour la Turquie, son engagement à soutenir est raisonnable parce que le gouvernement qu'elle soutient est reconnu internationalement. Ankara a critiqué la France parce qu'elle a fortement critiqué la politique Erdogan. Le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères a déclaré que la France n'avait fait d'augmenter les tensions en Libye. La France, l'Égypte et les Émirats arabes unis soutiennent le général Khalifa Haftar qui s'est rebellé. En effet, la violence n'est pas le meilleur moyen de résoudre les différences qui se sont manifestées pendant la guerre. Les attitudes et les décisions des parties étrangères, à la fois celles qui soutiennent le gouvernement et les rebelles sous fond militaire et d'armes, ont été prouvées d'intensifier la guerre. Le gouvernement et les rebelles non seulement ont ressenti un soutien moral, mais aussi un soutien politique, militaire et armement. La guerre continue, les ressources naturelles de la Libye continuent d'être épuisées, les gens sont divisés et souffrent de plus en plus de la crise, notamment l'économie. L'ONU estime l'importance des efforts pacifiques pour résoudre le conflit en Libye qui dure depuis près de 10 ans. Cette initiative des Nations Unies doit être soutenue. Il doit y avoir des mesures concrètes pour encourager le gouvernement et les rebelles de Libye à s'asseoir à une table. Les pays étrangers, qu'ils soutiennent le gouvernement ou vice-versa, doivent se retenir. Il doit y avoir d'autres pays qui peuvent devenir des médiateurs avec le soutien de l'ONU. Sinon, la Libye est de plus en plus déchirée par la guerre et le peuple s'ouvrira plus. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la première conférence des 16 femmes en Indonésie le 24 juin 1951. Le 24 juin était désigné comme l'anniversaire de l'Association indonésienne des 16 femmes basée sur les résultats de la première conférence des 16 femmes tenue à Jakarta le 24 juin 1951. Cette conférence a été initiée par des hôtes 16 femmes domiciliées à Jakarta. La première conférence des 16 femmes a réussi à établir une base solide et une direction correcte pour la prochaine lutte des 16 femmes, à savoir établir une organisation professionnelle appelée Ikatan Bidan Indonesia ou l'Association indonésienne des 16 femmes sous la forme d'une unité nationale et basée sur Pancasila et la Constitution 1945. Cette organisation professionnelle peut aider et répondre à tous les besoins des 16 femmes en Indonésie, en particulier dans les régions reculées du pays. Notre information est sur l'incident de Jakarta le 24 juin 1982. British Airways Flight 9, ou également connu comme l'incident de Jakarta, est un vol British Airways Détroit-Londres à Auckland avec des arrêts à Bombay, Madras, Kuala Lumpur, Perth et Melbourne. Le 24 juin 1982, l'avion s'est envolé vers le noyau du centre volcanique de l'éruption du Mangalunggung afin que le moteur ne démarrait pas. L'équipage de terre ne connaissait pas cet incident. Et l'avion est ensuite détourné vers Jakarta et on espérait que leur machine pourrait démarrer et atterrir là-bas. Cet avion pouvait sortir du noyau de cendre, redémarrer le moteur et atterrir à l'aéroport Halim Perdana Kusuma. Personne n'a été blessé. Cet incident a été soulevé dans une émission de télévision de Air Crash Investigation intitulée All Engine Failed. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement accident de train Igandou. La catastrophe ferroviaire Igandou était un accident survenu tôt le matin du 24 juin 2002 en Tanzanie, dans l'un des pires accidents de chemin de fer dans l'histoire africaine. Un grand train de passagers avec plus d'un 1200 personnes à bord roulait en arrière sur une colline dans un train de marchandises en mouvement lent, tuant 281 personnes. Cet accident a été causé par un réseau ferroviaire délabré. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu hati ini miliknya. Apa yang ku rasa? Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba? Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi? Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba? Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta hanya untukku. Andai dia tahu.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie et la Malaisie développent un couloir de voyage touristique conjoint. L'Indonésie et la Malaisie ont convenu de travailler ensemble pour reconstruire le tourisme et les communes créatives dans chaque pays frappé par la pandémie de COVID-19. L'un d'eux consiste à développer un couloir touristique conjoint. Nianiscaya, adjointe au marketing du ministère du Tourisme et des communes créatives de la République d'Indonésie, Dans sa déclaration écrite que ce Pak Antara samedi a déclaré que la Malaisie était l'un des partenaires importants du tourisme indonésien. Jusqu'à présent, la Malaisie est l'un des plus grands contributeurs de touristes étrangers en Indonésie. En 2019, 2,09 millions de touristes malais ont visité l'Indonésie. Cela a été dit par Nia Niscaya lorsqu'elle était conférencière invitée à Talk Show Network Industry Travel avec la ministre malaise du Tourisme, des Arts et de la Culture, Dato' Sri Nancy Sukri, sur le thème « Regional Tourism Collaborative Opportunities Post-COVID-19 » vendredi soir. Selon Nia Niscaya, COVID-19 a apporté un changement fondamental pour les touristes dans leur voyage à l'avenir. Pour voyager entre les pays, les touristes auront tendance à préférer voyager dans un voyage qui n'est pas trop long. La Malaisie devient donc l'un des partenaires potentiels pour pouvoir relancer les voyages touristiques internationaux. Nia Niscaya expliquait que la coopération qui pourrait être menée était de savoir comment convaincre le monde que les deux pays avaient réussi à contrôler la propagation du virus corona et avaient accepté de créer un couloir de voyage. Le ministère du Tourisme et de l'économie créative a préparé un handbook ou un guide faisant référence au nom mondial en tant que guide technique pour les hommes d'affaires du secteur du tourisme et de l'économie créative. Ce livre de guide est un dérivé plus détaillé du protocole développé par le ministère de la Santé sur la base des contributions du ministère du Tourisme et de l'économie créative pour le secteur du tourisme et de l'économie créative. Selon Nia Niscaya, l'application de ce protocole pourrait augmenter la confiance des touristes. Ceci est très important car la confiance est la clé pour accélérer la récupération. La même chose a été dite par la ministre malaise du Tourisme, des Arts et de la Culture, Dato' Sri Nancy Sukri. Elle a révélé que la Malaisie appréciait vraiment les relations de coopération qui existaient jusqu'à présent avec l'Indonésie. Selon elle, l'Indonésie et la Malaisie doivent être en mesure d'accroître leur coopération pour pouvoir améliorer le secteur du tourisme à l'avenir. Le secteur du tourisme doit être en mesure de bien s'adapter pour pouvoir accroître la confiance des touristes afin qu'ils puissent voyager, rester plus longtemps dans de nombreuses destinations. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Jika Tuhan yang menghendaki.
chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir, chers auditeurs. C'est avec un grand plaisir que nous vous rencontrerons à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à visiter la colline Daun à Bengkulu. Chers auditeurs, Curup est la capitale de la résidence de Rejang Lebong en province de Bengkulu. La ville dans les montagnes de Bukit Barisan est également entourée par les collines de Kaba et de Daun, connues comme un lieu où Rafflesia Arnoldi grandit. Si vous visitez cette région, vous serez accueillis par l'air froid et frais. Les habitants d'origine sont la tribu Rejang, mais il y a aussi beaucoup de gens d'autres tribus telles que Javanese, Lembang, Minang, Sarawai et Sunda. La ville était autrefois la capitale de la province de Sumatra du Sud pendant la révolution sous la direction du gouverneur Aka Ghani. Visiter la ville de Curup est incomplète si vous ne découvrez pas la beauté naturelle de la ville du sommet de la colline Daun. Bukit Daun ou la colline Daun est l'une des forêts protégées d'Indonésie qui fournit un approvisionnement suffisant en oxygène. Cette forêt est très facile d'accès car il s'agit d'une route Trans-Sumatra et est située le long d'une route Liku 9 qui relie la résidence de Kepahiang et la résidence de Bengkulu Central en province de Bengkulu. En entrant dans la forêt, vous serez gâté par la vue et une ambiance très naturelle. L'air frais peut être respiré. Même, vous pouvez entendre le chant occasionnel des oiseaux et des singes qui sautent puis se crient. Gardez à l'esprit que cette forêt protégée est devenue un tampon pour la vie de la communauté environnante. La forêt protégée de Bukit Daun est très riche en produits agricoles tels que le bois, le rotan, la résine, le miel ou les fruits comme durian. Sur cette colline, il y a un grand cratère avec une altitude d'un 1700 mètres au-dessous du niveau de la mer qui présente une voie intéressante. Il n'y a que deux itinéraires qui ont été dirigés, à savoir le chemin de terre pour le trekking et le chemin asphalté qui peut être traversé par des véhicules à deux roues. En entrant dans la zone de pic, les rangs des collines qui sont belles devant vous vous surprendront avec la lumière du soleil qui traverse les montagnes avec la couleur d'orange, qui est dommage que vous manquez sans le capturer avec l'objectif de votre appareil photo. Lorsque la nuit tombe, la lumière scintillante de la ville de Curup du sommet de la montagne ajoute à la beauté de cet endroit. La nuit sera très courte si vous êtes là avec des panoramas inoubliables. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La colline Daun à Bengkulu ». Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. Merci de votre fidélité et à très bientôt.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, c'est la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, on se rencontre encore dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence du développement et du renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la culture de la République indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est transportasi umum, ou en français, transport public. Vous êtes avec moi, Audrey. Bonne écoute. Le sujet d'aujourd'hui est transport public. Transportasi umum. Transportasi umum. L'objectif, après avoir fait écouter cette matière, les apprenants peuvent s'exprimer et se poser des questions sur les directions, l'emplacement, l'environnement et les activités quotidiennes. Les personnages, Kevin et Rama, lieu, à l'auberge, situation, Kevin a demandé à Rama quel moyen de transport pouvait être utilisé pour se rendre sur le campus. Voici la conversation. Bonne écoute.
Bagaimana cara naik Transjakarta?
Cek jalurnya.
Tunggulah di halte bus yang benar. Siapkan uang elektronik. Kalau bingung, tanya petugas.
Oke, terima kasih.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation ci-dessus, je vais vous présenter les expressions et les vocabulaires reliant au sujet d'aujourd'hui. Transportasi umum. Transportasi umum. Transport public. Cek jalurnya. Cek jalurnya. En français, vérifier le chemin. Tunggu. Tunggu. Attendre. Halte bus. Halte bus. Arrêt de bus. Uang elektronik. Uang elektronik. Monnaie électronique. Bingung. Bingung. Confuse. Petugas. Petugas. Officier. Bagaimana cara naik Transjakarta? Bagaimana cara naik Transjakarta? Comment prendre le bus Transjakarta? Tunggulah di halte bus yang benar. Tunggulah di halte bus yang benar. Attendez à l'arrêt de bus correct. Siapkan uang elektronik. Siapkan uang elektronik. Préparez votre monnaie électronique. Kalau bingung, tanya petugas. Kalau bingung, tanya petugas. En cas de confusion, demandez à l'officier. Cher ami, dans cette conversation, vous avez écouté Kevin a posé une question. Bagaimana cara naik Transjakarta? Bagaimana cara naik bus Transjakarta? Comment prendre le bus Transjakarta? Dans cette phrase, il y a un mot d'interrogation. Bagaimana cara? Bagaimana cara? Comment? Kevin utilise ce mot pour demander comment pour prendre le bus Transjakarta. Lorsque vous posez de telles questions, les réponses que vous pourriez entendre sont des indices que vous devez faire. Écoutons à nouveau la conversation entre Kevin et Rama. Bonne écoute. Kevin, bagaimana cara naik bus Transjakarta? Bagaimana cara naik bus Transjakarta? Comment prendre le bus Transjakarta? Rama, cek jalurnya, tunggulah di halte bus yang benar, siapkan uang elektronik, kalau bingung, tanya petugas. Cek jalurnya, tunggulah di halte bus yang benar, siapkan uang elektronik, kalau bingung, tanya petugas. Vérifiez le chemin, attendez à l'arrêt de bus correct, préparez la monnaie électronique. En cas de confusion, demandez à l'officier. Chers auditeurs, avant de terminer ce programme Apprendre l'indonésien, pour être plus clair, allons écouter encore une fois la conversation ci-dessous. Bonne écoute.
Bagaimana cara naik Transjakarta?
Cek jalurnya. Tunggulah di halte bus yang benar. Siapkan uang elektronik. Kalau bingung, tanya petugas.
Oke, terima kasih.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître la langue indonésienne. À la prochaine fois, merci beaucoup d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Semakin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat cinta yang tulus dari kan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya.
Voice of Indonesia.
Bunga bersemi, mengapa dia murung lagi? Hapuskan tangismu di bibir. Caranya hari apa yang dia kau hatiri. Aku takkan pernah mengerti mengapa tak bisa ku buat dia bersenang hati. Yeah.
Oh Tuhan, bantulah dia berdiri juga memperbaiki hatinya yang sedih, sedih, sedih. Mohon Tuhan, beri dia kasih sayang. Biarkanlah dia pulang dan tersenyum lagi.
Aku berlari mencoba memperbaiki segala kemurungan hatimu. Bahwa kau selalu sendu, aku takkan pernah tahu.
Takkan pernah tahu
jika kamu tak akan mau memberiku cara untuk menenteramkan hati. Yeah.
Oh Tuhan, bantulah dia berdiri juga memperbaiki hatinya yang
sedih, sedih, sedih.
Mohon Tuhan, beri dia kasih sayang. Biarkanlah dia pulang dan tersenyum lagi.
Dia berdiri juga memperbaiki hatinya yang
sedih, sedih, sedih. Mohon Tuhan,
mohon
beri dia kasih sayang. Biarkanlah dia pulang
dan tersenyum lagi.
Oh Tuhan, bantulah dia berdiri juga memperbaiki.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19 sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Vous êtes avec moi, Audrey. Et cette fois, vous allez écouter une chanson du Kalimantan Central intitulée Mamangun Mahagaleu. Chers auditeurs, Mamangun Mahagaleu signifie un bâtiment gardant la zone. Cette chanson a été créée par Bobby Tarung. Les paroles contiennent une invitation à la communauté pour développer et protéger la zone. Par conséquent, le bien-être augmente alors que la région est avancée. Cependant, lors du développement de la zone, la nature doit être correctement entretenue. Mon cher auditeur, voici la chanson « Mamangon Mahagaleu » chantée par Nelvira. Bonne écoute.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.